Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Bonsoir à toi qui écoute Radio Canu sur le 102.2 de la bande FM ou sur radiocanu.org. Il est 22h et c'est l'heure de la causerie comme presque tous les dimanches. Et ce soir dans les studios, nous avons Clara.
Bonsoir.
Bonsoir. Nous avons Fab aussi.
Bonsoir, bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir. Eh bien, on espère que vous allez bien, que vous ne voulez cahier pas trop chez vous, ou ailleurs d'ailleurs. Donc voilà, la causerie, on va commencer tout de suite, n'est-ce pas? Et c'est Fab qui commence, qui va nous parler France, Europe et viol.
Oui, ça va pas... bizarrement on a l'impression que ça ne va pas ensemble et pourtant...
Oui, enfin oui, il y a une logique à ce titre-là.
Ah oh bah oui, quand même. Donc, on peut pas nier hein, que la vague MeToo et tout ce qui a suivi a permis de libérer la parole des victimes, comme on dit. Moi, je pense plutôt que ça a permis qu'on commence à un peu les entendre, parce que ça faisait longtemps qu'elles parlaient souvent de violence, de viol et d'agression sexuelle. On peut se féliciter hein, que ce mouvement ait changé la donne partout dans le monde depuis des années et qu'il continue à le faire. Ce mouvement a obligé d'ailleurs l'ensemble de la classe politique en France à prendre position, de dire ce qu'il pense de ces sujets importants. Bien entendu, hein, chaque courant politique l'a aussi instrumentalisé, parce que c'est quand même souvent comme ça avec le sociétal, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est sociétal est instrumentalisable, ce qui est une parfaite bêtise, mais c'est le jeu de la vie politique française. Donc on notera que ce 25 novembre, à Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le président de la République française, lui-même, n'a pas pu éviter de faire une vidéo pour dire ce qu'il pense et apporter son soutien au combat. Dans cette allocution sur X, ouais, parce que donc personne ne trouve anormal que le président de la République fasse ses déclarations sur le réseau d'un libertarien d'extrême droite qui laisse proliférer les fachos. Mais bon, ça, tout va bien, c'est pas grave.
Oui, et puis ce qui était drôle, c'est que quand Trump le faisait tout le temps, tout le monde en France surtout, enfin ailleurs sûrement,
ouais, trouvait ça.
Trump, son canal de communication, c'est Twitter, enfin X maintenant. Bah, faut croire que c'est le cas de tous les politicards en fait.
Bah voilà, c'est ça quoi.
Parce que je crois qu'un certain Jean-Luc Mélenchon réagit beaucoup sur les réseaux médias
et sur
sociaux,
X
en fait.
Aussi.
Et sur X aussi en fait. Donc oui, si t'es un politicard, c'est un peu ton réseau quoi.
Donc on a pu entendre hein, donc le président tenir ce genre de propos. Hein, il a donc affirmé que la persistance de la violence faite aux femmes n'est pas une fatalité et que nous devons y mettre fin et nous allons le faire. Voilà. Bon, alors, si vous êtes un SDF dans les rues de France, vous savez que ce genre de truc-là, il l'a déjà dit sur le fait qu'il n'y aurait plus de SDF à partir de 2017 dans les rues. Donc, on imagine bien que c'est, voilà, hein, que ça sent la volonté et l'engagement. Hein, on
ouais, j'allais te rajouter un amen derrière, parce que ça ressemble presque à une prière.
Ouais, c'est
et
ça.
C'est
ouais.
Un peu du même domaine, quoi.
Alors, juste, il y a quand même une féministe qui a souligné sur X, qui lui a répondu, qui a dit qu'elle était étonnée d'entendre parler que de la violence faite aux femmes. Mmh. Parce que ce sont les violences. Hein. Voilà, mais j'ai trouvé que la remarque était juste aussi, puisque même le texte sonne faux. Et donc, clairement, on peut se dire qu'il se fout quand même profondément de notre gueule, hein, parce qu'il faut quand même dire les choses. Parce que c'est bien le même président hein, qui refuse de mettre sur la table les 1 milliard d'euros par an nécessaires, selon les associations, pour pouvoir lutter efficacement contre les violences. Hein. C'est bien le même président dont le gouvernement a voulu tuer le 3919, un numéro d'appel d'urgence pour les personnes subissant des violences sexuelles, numéro d'appel et d'entraide, en le confiant non plus aux associations mais au privé, hein, on va le rappeler quand même. Et c'est bien le même président qui, dans ses déplacements internationaux, n'a jamais un mot pour le sort des femmes dans les pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite ou le Mexique qu'il a visité récemment. Donc on sent bien quand même que c'est une cause qui, oulala, ça lui tient à cœur. Hein. Voilà. Oui, on est là dans l'affichage hein, qui coûte pas cher. C'est Zurich, c'est gratos. L'annonce sans rien derrière. Et bien entendu, le manque flagrant de volonté réelle. Mais vous pensez que ça s'arrêtait là ?
Non.
Que nenni ! Vous rêvez, la France est aujourd'hui en Europe sous l'impulsion de Macron, hein, donc notre président, parmi les nations qui bloquent une loi sur le viol. Oui, vous ne rêvez pas et je vais vous expliquer. C'est bien aujourd'hui la France qui est à la tête d'une coalition contre une loi sur le viol en Europe. Alors l'Europe veut en fait harmoniser la définition du viol. Vous vous en souvenez peut-être, mais le 8 mars 2022, la Commission européenne avait promis d'harmoniser la réponse pénale dans les pays de l'Union européenne face aux violences commises contre les femmes. Elle avait été suivie d'ailleurs à cette époque-là par le Parlement européen qui avait dit qu'ils allaient faire une loi conjointe. Alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas bien comment fonctionne l'Europe, mais quand une loi est conjointe au niveau européen, elle va plus vite. Parce qu'en fait, ça évite qu'il y ait trop d'allers-retours, que ça repasse par les chefs d'État, tout ça, tout ça. Bref. Et ce, dans un but précis, que les victimes, où qu'elles soient en Europe, puissent porter plainte, même si l'agression a eu lieu ailleurs que dans le pays où elles se trouvent ou où elles résident. Donc en fait, l'idée, c'est de dire bah, on aurait la même définition partout en Europe, dans les 27 pays européens, ce qui permet que si vous êtes malheureusement, vous subissez un viol en Espagne, vous pouvez porter plainte en France, la définition étant la même, en fait, le droit européen s'appliquerait.
Oui, et puis je pense qu'il y a aussi une notion que... Enfin, je sais pas comment dire... Mais que toute personne qui subit la même chose sur un territoire qui est régi, on va dire, par les mêmes
soit
règles,
reconnue de la
soit
même,
reconnue voilà, de la ça. Même manière où qu'elle se trouve, en fait, sur ce territoire
alors,
commun.
Il y a effectivement cette notion-là, mais c'est vrai que là, c'est plutôt une notion juridique, parce que le but était d'avoir une loi européenne contraignante. Hein, donc, du coup, voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a cette notion de se dire toutes les victimes sont victimes à part égale partout en Europe. Voilà. Mais surtout, en fait, c'était pour que la définition ne diffère pas d'un pays à l'autre pour garantir aussi un accès à la justice. Voilà. Donc c'est louable et puis c'est très intelligent parce que comme tu le soulignais, bah après tout, quand on subit une violence en Roumanie ou en France, on subit une violence. Voilà et ça doit être reconnu comme étant la même. Voilà. Donc les travaux ont donc depuis eu lieu et l'Union européenne via le Parlement européen, puis la Commission, puis le Parlement, puis la Commission. Oui parce que c'est des allers-retours. Et on a décidé de faire une commission mixte. Alors les commissions mixtes, en fait, c'est une partie de la Commission européenne, une partie le Parlement européen. Et le but est d'arriver à un texte qui fait consensus. On en entend aussi parler entre le Sénat et l'Assemblée nationale en France. C'est un peu la même logique. Donc, ça arrive à un texte qui permet d'imaginer que cela sera possible. Sauf que, eh ben, le texte, il contient une définition pour le viol. C'est logique, vu qu'on veut catégoriser toutes les violences. Donc, le viol est dans cette définition. Et c'est là que le bât blesse. Bon, alors que Orban s'oppose à ce texte, on n'est pas hyper surpris et que Mélanie émette de forts doutes aussi, mais soit obligée quand même de le soutenir parce qu'elle n'a pas la majorité pour ne pas le soutenir, on comprend aussi. Bon, je vais dire un mec d'extrême droite, une nana d'extrême droite, on n'est pas surpris que... Bon, mais que la France, suivie par l'Allemagne, dans un accord du genre... Tu me suis là-dessus, je te suis sur le glyphosate, a de quoi quand même un peu surprendre. Parce que, bon, voilà, surtout après le discours du président, parce que je ne renvoie pas...
Enfin,
voilà.
Le tweet du président.
Ah oui, le X. Je ne sais pas comment on doit y appeler, d'ailleurs. Un X-it.
Ah, le poste, quoi.
Le poste, voilà. Car, que dit le texte européen ? Pour la Commission européenne et pour le Parlement européen, ils sont arrivés à un accord, seul un oui est un oui. Voilà. Autrement dit, tout acte commis sans consentement relève du viol. Ou encore autrement dit, non, c'est non, et s'il n'y a pas de oui, eh ben c'est non aussi. Bon, ça on l'a déjà dit dans la causerie, donc on n'est pas dire qu'on n'est pas d'accord avec eux. C'est simple, c'est clair et c'est efficace. C'est l'idée de dire qu'à partir du moment où vous considérez ne pas avoir donné votre consentement, eh bien ce qu'on vous fait subir peut être considéré comme un viol. Voilà. Sauf que bah, l'Italie, la Belgique, la Grèce, le Luxembourg, la Croatie, la Suède, l'Irlande et l'Espagne et le Portugal Oui.
T'as dit l'Italie aussi.
Oui, oui, parce okay. que Meloni n'a pas la majorité okay. au niveau européen, donc son pays soutient. Ah ouais, c'est le fédéralisme, hein, c'est compliqué. Vous pouvez avoir une facho à la tête du pays et en même temps ne pas avoir la majorité. Voilà, donc c'est très bien. Donc l'Italie s'est portée aussi partie prenante de cette définition et milite pour que cette définition fasse consensus. Voilà. Et ben face à eux, il y a un groupe de pays qui s'est mis en mouvement pour bloquer cette définition. Et ce groupe est composé de la France, la Pologne, l'Allemagne et Malte. Voilà, c'est quand même un peu surprenant.
Bah c'est ouf, hein, parce que Malte et la Pologne, c'est quand même.
Alors, c'est les deux pays où l'avortement n'est pas
oui,
autorisé.
C'est ça,
hein,
c'est quand même deux pays qui sont bien réac avec, oui. on va dire, les deux puissances, en tout cas économiques, européennes.
C'est surtout qu'en nombre de voix, France et Allemagne, comme c'est les deux pays les plus peuplés d'Europe, ouais. Pèsent énormément sur la décision. Donc
et
c'est,
qui, voilà. Ce qui roule ensemble, c'est joli.
Bah, c'est pas terrible, ouais, on est d'accord. Alors, selon ces pays, hein, selon eux, cette définition pose un problème juridique. Alors, il y a plein de juristes qui se sont posés sur la question de quel était le problème juridique. Alors, en fait, il y a une juriste qui dit que dans les faits, hein, c'est surtout que ces pays sont ceux où la correctionnalisation des procès pour viol et agression sont les plus fortes et les plus encouragées. Autrement dit, les pays où on ne prend pas vraiment les violences faites aux femmes pour des crimes. Et comme, en fait, la définition donnée par l'Union européenne met le viol dans la catégorie automatiquement du crime, vous ne pourriez plus correctionnaliser. Vous voyez un peu ce qu'il y a derrière ? Voilà. Oui, mesdames, si vous nous écoutez, c'est horrible et dégueulasse, parce qu'on va le dire, et puis pour toute victime d'ailleurs de viol, c'est horrible, c'est dégueulasse, c'est purement cynique et c'est purement calculateur, parce que c'est l'idée de dire on va quand même pas augmenter le budget de la justice. Parce que c'est ça qui est derrière, hein, clairement. Dans une indiscrétion du journal Le Monde, sous couvert d'anonymat, une source européenne a donc dit aux journalistes du Monde, hein, qui enquêtaient là-dessus, c'est Emmanuel Macron qui a arbitré et décidé que la France ne souhaitait pas une définition européenne du viol assise sur la notion de consentement. Voilà. C'est le même gars qui vous expliquait dans son X qu'il allait éradiquer les violences faites aux femmes. Très bien, on sent qu'il y a de la conviction derrière. On se demande quand même sur quoi la notion de viol devrait être appuyée du coup, parce que c'est un peu ça hein, le truc. Hein. Alors dans la Macronie, hein, donc les proches d'Emmanuel Macron, selon ce qu'on trouve dans plusieurs journaux, certains parlent de contrainte, et d'autres parlent de pression. Vous sentez un peu le retour en arrière, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait eu contrainte ou pression. Ça veut dire quand même qu'on reviendrait même sur quelle est la définition
oui,
du viol aujourd'hui en France,
en
hein, quand
France,
même.
Ouais, c'est ça.
Donc, c'est juste un peu fou, mais voilà, on sent que, voilà, en gros, MeToo, il y en a marre, hein, on va le dire ça comme ça. C'est que, alors, n'y voyez surtout aucun lien sur le fait que plusieurs personnels politiques aient été pris dans cette tempête de révélations et que, du coup, d'un seul coup, ils sont en train de se protéger. Non, pensez donc. Là, il faudrait être sacrément cynique. Voilà, bon. Alors, mais je pense qu'il y a de ça quand même. Faut pas non plus. Voilà.
Oui, enfin, ouais, et après, faut faire gaffe comment on le présente. Quoi. Là, c'est un peu gros complot.
Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que ce que je veux dire, c'est que étonnamment.
Ah, mais il y a de l'intérêt en fait.
Il y a de l'intérêt, et étonnamment, on commence à dire, par exemple, je vais prendre un exemple. Hein, il y a des macronistes hein, qui ont expliqué que. Voilà, quand même, parler de choses comme les. Comment on appelle ça quand on. L'emprise. Mm-hmm. Ah oui, mais c'est problématique, parce que bon, qu'est-ce que c'est l'emprise ? Vous voyez, en fait, on voit qu'il y a quand même une volonté de remettre le curseur un peu plus en arrière mm-hmm. que ce qu'il est aujourd'hui. Et ça, étrangement, ça arrive dans une période où, quand même, plusieurs personnels politiques sont notamment mis en accusation pour emprise sur des personnes. Donc, ne pas y voir. Enfin, je ne veux pas être complotiste, mais je pense que, quand même, quand on a des potes, on peut aussi se dire oui, mais peut-être que lui, il n'a pas fait grand-chose.
Ah non, mais qu'après, il y a une sorte de conscience de classe,
ouais, on va dire ça comme ça.
Qui se protège, etc.
Oui, mais je ne suis pas d'esprit complotiste.
Certes, derrière, effectivement, mais c'est aussi à croiser avec ce que tu disais avant. C'est aussi,
et puis, il y a aussi le budget.
Ça veut dire qu'il faut sortir de la thune, etc., à l'heure où. Le gouvernement n'a la bouche qu'on ne peut pas augmenter les impôts.
C'est ça.
Donc en fait, vouloir toujours plus d'argent, c'est-à-dire devoir en chercher quelque part, ou alors baisser les postes de dépenses d'autres. Oui,
ouais, comme l'armée, ouais. Tout ça. Ouais. Non, voilà. Donc, au tweet, au X, je ne sais plus comment on dit maintenant, de Emmanuel Macron, l'eurodéputé Raphaël Glucksmann lui a répondu « Un acte sexuel sans consentement, c'est un viol. Point. » Voilà, chose avec lequel je pense à la causerie. On est parfaitement d'accord, hein, parce qu'il faut savoir que le mouvement Place Publique, dont est issu le député Raphaël Glucksmann, il est en pointe sur le sujet en France et en Europe. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui s'est saisi vraiment de cette question, et il fait partie de ceux qui, au niveau européen, a porté le plus le fait d'avoir une définition européenne, ce qui permettrait à toutes les personnes victimes de pouvoir être reconnues identique, de façon identique dans 27 pays. Voilà. Donc c'est un rappel quand même salutaire, hein, qu'il fait. Et il ajoute auprès de l'AFP, c'est un désastre que la France se retrouve dans cette coalition de refus. C'est assez particulier pour un gouvernement qui se prétend extrêmement pro-européen d'être soudainement ultra-tatillon sur le risque d'un élargissement des compétences de la Commission européenne et de la loi européenne. Parce que c'est aussi ça qu'il y a derrière, on dit « Oui, mais ça relève de la souveraineté. » Non, pourquoi ? En fait, je veux dire, là, honnêtement, mais moi, je me dis « Bah, non, mettre une définition commune, et surtout une définition qui est plutôt, à mes yeux, très progressiste, de dire « Bah, s'il n'y a pas de oui, c'est pas un consentement, c'est un viol. » Bah, ça a potentiellement un viol, en tout cas, mais je trouve que c'est quand même très fort, et là, on a quand même une sorte de rétro-pédalage un peu étrange.
Oui, mais là, ça aussi, là, je pense que, en fait, parmi toutes les pistes évoquées de raison 2, t'as aussi allé répondre un peu à cette volonté de souverainisme, ouais, à la Le Pen, qui veut pas que l'Europe décide, etc.
Ouais,
et en fait, c'est ça, je pense qu'en fait, il y a un petit peu de tout ça.
Surtout sur le dos des victimes.
Oui, c'est ça, c'est juste, voilà, c'est juste différents intérêts qui se font sur la gueule des victimes.
Donc, toujours auprès de l'AFP, hein, il y a l'eurodéputée Nathalie Collin-Ouest Sterley, alors qui est de droite, qui est au PPE, qui déclare « De toute évidence, tous les États ne sont pas d'accord sur la définition du consentement. S'il est clair au niveau de la Commission européenne et du Parlement européen que seul un oui est un oui, certains États membres voudraient qu'il y ait d'autres conditions pour que ce soit considéré comme un viol. » Voilà. Là, d'un coup, on se dit « Oui, alors elle reste très floue, hein, quand même, hein, sur ces conditions, parce qu'elle ne nous explique pas ce qu'elle veut mettre derrière. Et selon le journaliste de l'AFP, cela serait donc l'emploi de contraintes, par exemple. Ça revient. Et là, encore une fois, est-ce qu'on doit rappeler ici que c'est une des notions les plus difficiles à qualifier judiciairement ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va se mettre à se demander si oui ou non il y avait contrainte ? Si oui, on était dans un jeu érotique, ou sinon, on était dans un viol ? Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, c'est la porte ouverte, en fait, à plein de voies de sortie juridiques pour des personnes qui auraient commis des viols. Et ça, en fait, bah, il y a plein d'associations féministes, notamment, qui disent, mais attendez, si on commence à rentrer dans ces idées-là, eh ben, en fait, on va ouvrir la porte à ce que on puisse faire des sorties très faciles, du genre, j'ai été obligé de mettre de la drogue dans le verre de ma collègue parce que mon chat allait mourir. Vous voyez, c'est un peu, enfin, ça vous paraît peut-être bizarre ce que je dis, mais renseignez-vous, c'est une affaire qui est en cours, et c'est juste surréaliste, en fait. On entend des trucs où on se dit, bah, ouais, ils osent tout. Et bah, du coup, oui, les associations disent, si dans la loi, on commence à mettre des mots flous, ben on va tomber sur après des flous juridiques, et ça va aider beaucoup plus les bourreaux que les victimes. Voilà, on a donc là une belle hypocrisie générale, hein, quand même, hein, une fois de plus, sur le dos des femmes et des hommes qui subissent des viols, et avec un cynisme hallucinant, hein, parce que quand même, ce qui est derrière, on va le redire, c'est juste de ne pas augmenter le budget de la justice. Hein. La France risque donc de faire échouer une des avancées les plus importantes du droit européen, tout comme elle a d'ailleurs, je tiens à le rappeler, hein, fait échouer le fait que l'avortement soit élargi au niveau européen, pour des raisons là aussi, ah oui, on n'y voyait aucun rapport avec la visite du pape, mais c'était dans la même période. Donc voilà, et ça aurait quand même permis, là aussi, de garantir le droit et l'accès à l'avortement partout en Europe. Donc c'est bien de dire, on va le mettre dans la Constitution en France, ce serait vachement mieux de dire, en fait, on va le garantir dans les 27 pays de l'Union Européenne. Voilà, donc là, on est encore une fois dans un truc totalement hypocrite, et là, en fait, cette loi, elle permettrait à l'ensemble des victimes de viol en Europe d'être sur un pied d'égalité, quel que soit le pays où il et où elle réside. Et ça, c'est hyper important. Et surtout, je le rappelle, ça voudrait dire qu'on pourrait porter plainte dans son pays de résidence, même si on était en vacances à l'autre bout de l'Europe et qu'on a subi un acte de... Alors, un viol. Ça permettrait en fait d'avoir un droit européen. Au lieu de là, devoir demander à la police française une dérogation. Vous voyez, donc c'est juste en fait faciliter la vie des victimes. C'est juste ça qui est derrière.
Ouais. Mais je trouve que c'est quand même, ça résonne toujours beaucoup avec le fait que en fait, les politiciens voient beaucoup dans l'Europe un marché, c'est-à-dire que
ça,
toutes
oui,
les lois problème. Pour le marché unique européen, machin, là, ils peuvent chier des lois à l'appel.
Et vite.
Et en fait, et dès qu'en fait, il s'agit de quelque chose qui concerne, on va dire, les gens et on va dire la protection des individus, Bah, ils ont vachement plus de mal quand même, quoi. C'est vraiment.
Bah oui, surtout que ça nous paraît pas quand même aberrant. Enfin, je trouve. Moi, quand je le dis, hein, je suis pas un fan des institutions étatiques, ni de l'Union européenne, ni quoi que ce soit, mais il faut quand même constater que l'idée de se dire qu'on peut élargir un droit à, en gros, 257 millions de femmes en Europe, plus des hommes qui peuvent subir des viols, enfin, je veux dire, c'est aussi quand même, à un moment donné, un sacré bel élargissement. Et surtout, comme le font remarquer des associations, cette définition, elle renforcerait aussi le droit pour les personnes qui ont été victimes de pédocriminels, le droit pour les personnes qui ont subi des actes de viol dans leur enfance, parce qu'en fait ça mettrait une définition claire de ce qu'est le viol. Or on pourrait pas dire qu'un enfant peut être consentant, ou aurait dit oui, vous voyez, c'est un peu ça le truc. Et en fait, bah, y a plein d'assos qui disent, mais là on est face quand même à une des avancées qui serait majeure au niveau européen, et on a un pays, la France, qui prend la tête d'une coalition pour empêcher en fait la mise en place de cette avancée. Et ben moi, ça m'interroge vraiment sur ce qu'est le fond aujourd'hui de ce qui nous gouverne en France, de ce qu'il y a derrière réellement. Et moi, j'aimerais vraiment comprendre, mais là, c'est peut-être un peu utopique de ma part, qu'un jour, un ministre vienne nous, ou le président de la République vienne nous expliquer en quoi cette loi serait problématique d'un point de vue juridique. Parce que là, je vous assure, j'ai lu plein d'articles sur le sujet, il y a plein de juristes qui se sont penchés sur le truc, et il n'y en a pas un qui trouve en quoi ce serait juridiquement problématique. Donc voilà, parce qu'il dit c'est juste une transcription de la loi, une fois que la loi elle est votée, vous la transcrivez, et voilà, elle devient vraie, hein, donc c'est tout. Et donc du coup, voilà. Donc je voulais en parler ce soir, parce que je trouve que le grand truc d'hypocrisie d'hier du président de la République méritait quand même qu'on remette en lumière ce qui se fait derrière en coulisses, et qu'on arrête un peu de croire que sur parole tous ces politiques qui vont sur X ou Twitter pour faire des belles déclarations, mais qui, une fois qu'ils ont la possibilité de les mettre en œuvre, font tout pour qu'elles n'aient pas lieu.
Comme disait un vieux politicard, les promesses politiques n'engagent que celles et ceux qui y croient.
Tout à fait. Alors moi, j'y crois pas personnellement.
Non, mais retenez ça, quoi. Retenez vraiment ça. Quand c'est un politicard qui a une grosse carrière et plein de casseroles au cul qui dit ça, c'est qu'il y a quand même certainement un peu de vrai là-dedans, quoi.
J'ai oublié, il y a plein d'associations, enfin, il y a plusieurs associations féministes, notamment Nous Toutes et d'autres, et il y a aussi Place Publique qui lance, en fait, une grande pétition. Alors, je sais, des fois, on dit ça sert à rien, je veux pas dire que ça va servir à grand chose, mais au moins, ça montre qu'il y a du désaccord, et qui invite aussi à écrire à l'Élysée, c'est-à-dire, demander au président de la République, bonjour, pourquoi monsieur le président, pourquoi? Et je vous rappelle qu'en France, le président de la République est tenu de vous répondre. Donc, n'hésitez pas à le faire, donc, parce que voilà. Moi, je ne sais toujours pas pourquoi, donc voilà. Mais en tout cas, il ne faut pas que ça reste dans l'ombre et l'oubli.
On passe à la zik ?
Ouais.
Allez.
Run away, turn away, run away, run away, turn away, run 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 away, clair et la pluie. Der Regen wäscht uns von allen Sünden. La vie est flamme, mon amour, et le vent souffle chaque jour. Der Wind bläst, uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
Vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 ou sur RadioCanu.org et vous venez d'entendre le fabuleux duo Switches. Et oui, et avec De mon âme à Small Town Boy. Et oui, parce que c'est un mash-up entre... Oh, j'ai perdu le nom du groupe. Alors, Small Town Boy...
c'est, là qu'on est...
c'est là qu'on est mal. Hein.
Compromat.
Ah là, Compromat.
Pardon.
Oui, tout à fait.
voilà. Bah, en fait, oui, c'est le principe de Switches. En tout cas, un des pans de ce qu'elles font et comme elles avaient fait quand on les avait reçues à la causerie, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Eh ouais. Alors, si ça t'a plu, tu cherches la causerie Switches et puis tu pourras en écouter d'autres.
Parce qu'on l'a bizarrement écrit.
C'est une apostrophe. Hein,
non, c'est pas une apostrophe, justement. Si tu cherches à la causerie,
c'est
une astérisque.
Voilà. Et ben après ça, et ben c'est Fab qui continue de tenir le crachoir et ce soir la causerie quoi. oui non je sais, c'est, on va parler de guerre. Enfin Fab va parler de guerre en Érythrée.
Ouais, c'est vrai que je suis très joyeuse ce soir.
Je suis rarement joyeuse.
Ouais, bah, j'aimerais que l'info soit plus joyeuse, mais en ce moment, c'est pas trop le cas. Donc, oui, je vous parlais d'Érythrée, et, qui est quand même un monde très fermé. Voilà, puis je vais m'expliquer pourquoi. Donc, on apprenait il y a quelques jours, c'est une info qui a surpris. Voilà, on apprenait il y a quelques jours que l'Érythrée avait décidé que la sélection nationale de football du pays ne participerait pas aux qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Alors, officiellement, le pays a donc déclaré forfait. Alors la peur de perdre, allez-vous me dire, alors pas du tout. Ce forfait est lié en fait à la crainte du régime d'Isaias Afewerki, donc qui est à la tête du pays, hein, de voir les joueurs en profiter pour prendre la fuite. Ouais, ouais, vous rêvez pas. Il a ordonné hein, que l'équipe n'y aille pas parce qu'il avait peur que les joueurs s'en aillent. Il faut dire que l'Érythrée, c'est quand même un pays... assez méconnu, hein, mais qui est pourtant une sorte de Corée du Nord de l'Afrique, voilà, tout simplement. Alors géographiquement, le pays il est coincé entre le Soudan et l'Éthiopie, et bordé par la mer Rouge. D'ailleurs, il faisait partie de l'Éthiopie. Il y a une guerre d'indépendance de l'Érythrée en 1980, entre 90 et 93. Donc voilà, sa capitale, c'est Asmara, et c'est la plus grande ville du pays. Hein. D'ailleurs, c'est une capitale qui est quasi au milieu du désert. C'est étrange, mais voilà. Le pays est classé parmi les plus pauvres du monde, hein, 171e sur 196 en termes de revenus. Et l'argent versé par la diaspora érythréenne était en 2021 la principale source de revenus du pays. Voilà. L'agriculture y est dévastée, hein, que ce soit par les sécheresses, mais aussi du fait des nombreuses guerres qui ont secoué le pays, contre le Yémen en 1995, contre l'Éthiopie de 1998 à 2001, et les accrochages violents et actes immondes ont continué d'ailleurs bien après 2001, et notamment par le fait que beaucoup de champs ont été minés. Voilà, ce qui n'aide pas vraiment pour l'agriculture.
Alors, mais ça pousse mal la mine.
C'est pas très fertile. Arrivé au pouvoir en même temps que l'indépendance du pays, ou quasiment, c'est-à-dire autour de 1993, Isaias Afewerki va immédiatement mettre en place une sorte de dictature. Alors lui dira que non, mais dans les faits, c'en est une. Donc ça va être le parti unique, hein, parce que quand il y a un parti unique, t'es beaucoup moins emmerdé, souvent. L'annulation de toute forme d'élection, sauf celle décidée par le pouvoir. Voilà.
Oui, mais vu que le pouvoir représente le peuple, c'est le peuple
voilà,
en fait, qui a décidé que...
Une économie centralisée où le rôle de l'État est central. Alors, ça peut paraître drôle quand je le dis comme ça, mais c'est comme ça qu'il l'a présenté. Donc, une économie centralisée où le rôle de l'État est central. Mmh. Bon, comprendre en fait que les proches du pouvoir vont s'en mettre plein les poches, hein, parce que c'est ce qu'on appelle l'oligarchie, hein, ni plus ni moins. Et une réduction drastique des droits de la presse, hein, réduite, et je cite, à des organes vérifiés et organisés par l'État. Voilà. Néanmoins, quand même, sous la pression internationale, il va concéder que soit mis en place une forme de réflexion sur une constitution pour le pays. Voilà. Qui donnera une constitution qui a été rédigée en 1997, mais jamais votée. Voilà. Donc, faut pas déconner. Elle est prête. Mais pour l'instant, il est au pouvoir et il fait bien les choses d'après lui. Donc, il va pas en sortir. Mais la guerre contre l'Éthiopie, d'ailleurs, ça va lui donner l'occasion de faire basculer le pays dans la dictature. Mais là, vraiment, la dictature. Donc, entre 98 et 2000, cette guerre va faire plus de 100 000 morts. Hein, voilà, c'est quand même pas rien. C'est l'occasion, va être trop belle pour le pouvoir de maintenir le pays sous des lois d'exception qui auront été votées à ce moment-là. Et depuis, beaucoup d'experts estiment donc que l'Érythrée est comparable à la Corée du Nord, parce qu'en termes de lois, on est au même niveau que la Corée du Nord. Et donc, c'est un véritable goulag à ciel ouvert pour l'ensemble de la population, tout simplement. Voilà. Alors, ça paraît peut-être bizarre de dire ça, parce qu'on en entend rarement parler, mais je vous invite vraiment à aller chercher sur l'Érythrée. C'est juste hallucinant ce qu'on peut découvrir, parce que c'est quand même des choses qui arrivent à être sues. Donc, le pays compte plusieurs prisons hein, secrètes, évidemment, et des ONG estiment que le nombre de prisonniers politiques devrait atteindre environ 20 000 personnes. Hein, ce que quand même pas rien, sur une population de 3,5 millions. Hein, donc voilà. Les exécutions sont courantes hein, dans le pays et parfois publiques, pas toujours. De plus, la conscription est de mise hein, et le service à la nation. Oui, parce qu'on ne parle pas de service national. En Érythrée, on parle de service à la nation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Peut durer jusqu'à 5 ans. Voilà, ce qui garantit quand même une mainmise de l'État sur sa jeunesse, hein, parce que c'est ça qui est quand même derrière, faut pas le nier. Alors, récemment, il y a eu un rapprochement avec l'Éthiopie. Alors, je vous rappelle, hein, l'Érythrée, c'était un bout de l'Éthiopie à une époque. Il y a une guerre d'indépendance, voilà. Donc en 2018, les deux pays vont mettre officiellement fin à l'état de guerre entre eux. Et très rapidement collaborer pour, je cite, « stabiliser la région ». Alors quand un dictateur vous parle de stabiliser une région, confère Vladimir Poutine, par exemple, on sent que ça ne va pas se faire gentiment. Voilà, c'est un peu le truc. Bon, il faut dire que l'Éthiopie, à cette époque-là, elle voit la région du Tigré s'agiter et elle sent qu'une guerre risque d'éclater dans une région qui demande au moins son indépendance ou au moins plus d'autonomie depuis des années. Et il semble compliqué pour l'Éthiopie de maintenir finalement deux fronts, c'est-à-dire l'Érythrée et de l'autre côté le Tigré. Mais le rapprochement ira bien au-delà des attentes du pouvoir éthiopien. Quand la guerre au Tigré éclate, hein, entre 2020 et 2022, l'Érythrée va venir prêter main forte à son voisin pour écraser les rebelles tigréens. Voilà. Et ce, avec des méthodes d'une brutalité sans bornes. Donc le Tigré, hein, c'est, j'en avais parlé, c'est une guerre oubliée, bien que ce conflit hein, n'ait pas passionné grand monde. Hein. La guerre, oui, il faut croire qu'il y a des conflits qui ne passionnent pas. La guerre au Tigré a fait quand même des centaines de milliers de morts. Oui, des centaines de milliers de morts. Et alors, juste l'ONU dit qu'ils ne peuvent pas compter, parce qu'en fait, personne n'a pu se rendre sur place pour compter les morts. Donc, à Baban, on estime dans ces cas-là. Donc, je vous renvoie quand même à la causerie 435 hein, du 24 avril 2022, où nous avions pris le temps de parler de ce conflit toujours en cours, même si officiellement pas en cours, mais vous savez, c'est ces conflits qui ne s'arrêtent pas vraiment. Ouais. Voilà. Même si, du coup, la forme du conflit a changé, bah, il reste
oui,
toujours,
c'est toujours larvé.
Voilà,
en fait.
C'est larvé. Hein, donc, voilà. Donc sous la direction d'Abiy Ahmed et d'Isaias Afewerki, alors les troupes éthiopiennes, ça c'est les troupes d'Abiy Ahmed, et des troupes érythréennes, et des milices Amara ont donc commis d'importants crimes de guerre et de nettoyage ethnique en massacrant des civils, en affamant les populations locales et en utilisant comme arme la violence sexuelle contre les femmes et les jeunes filles. Voilà. C'est horrible, je suis désolé, je vous le dis avec un peu de froideur, mais voilà. La pénurie de produits alimentaires et de médicaments et l'impossibilité d'accès à des services essentiels sont la cause de multiples épidémies, notamment la malaria, l'épidémie d'anthrax, le choléra et l'épidémie de Covid qui a aussi sévi là-bas. En 2022, l'OMS décrit la situation comme la pire crise humanitaire dans le monde, tout simplement. Voilà, et pourtant, ben, pas un mot, pas une manif dans les rues, pas un soutien, ou presque, parce qu'il faut croire que quand ça se passe en Afrique, tout le monde s'en fout. Je ne fais pas, que ce soit clair, de la concurrence autour des conflits dans le monde. C'est pas ce que je suis en train de faire. Mais il est clair qu'une guerre est toujours une horreur absolue et qu'il n'est jamais acceptable de voir que des civils meurent. Simplement, je constate que ce qui se passe sur le continent africain est souvent étouffé, voire nié, voire pas connu, parce que ça ne nous intéresse pas vraiment. Voilà. Alors... oui, je suis désolé, hein, mais...
Non, mais oui, c'est... Par... En fait, c'est t'as l'impression que des fois, même les mouvements qui peuvent être contre la guerre, en fait, ils vont être en réponse à une guerre où leur pays est partie prenante. Mm-hmm. En fait, c'est-à-dire que là où la France va faire la guerre, bah, les gens vont se bouger. Hein.
Ouais.
Donc, il y a quand même quelque chose déjà d'étrange, c'est qu'on sait pas forcément un mouvement anti-guerre, en fait, c'est un mouvement anti-guerre de taron pays, quoi.
Bah oui, mais
en fait, il y a vraiment un truc.
Mais je te rappelle, Jean-Yves, et je t'invite à réécouter la causerie 435, que l'Érythrée est en bisbille avec Djibouti, où est présent la France.
Oui.
Donc, nous avons une part dans cette guerre, mais on s'en fout, globalement. Voilà. Pardon, je suis désolé. Un régime assez proche de Poutine, quand même. Hein. Voilà, c'est, il faut dire que le président... Alors, ça peut expliquer, d'ailleurs, aussi pourquoi une partie, notamment de la gauche française ou de l'extrême droite française, n'a pas vu ce qui se passait là-bas. Ça peut arriver. Donc, il faut dire que le régime érythréen est un proche de Poutine en juillet 2023, à faire qui, donc, a assisté au sommet Russie-Afrique hein, à Saint-Pétersbourg, c'est le fameux sommet où Poutine a invité en grande pompe à peu près une trentaine de chefs d'État africains et a rencontré le président russe Vladimir Poutine dans un entretien quand même de 2 heures. Voilà, ce qui veut dire plus que quand certains Européens vont voir Poutine. Donc voilà, lors de sa rencontre avec Poutine, Afferki a ouvertement nié l'existence d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Hein, il a dit non, j'ai pas eu de guerre moi. Parlant même d'une opération spéciale de sauvetage du peuple russophone ukrainien. Bon alors là on est clairement dans la reprise de la propagande poutinienne.
Il a bien retenu les propos de Vlad.
Il a bien retenu ce que Vlad lui a dit, tu diras ça en sortant de la pièce. Bon, il faut dire qu'il y a quand même là un renvoi d'ascenseur, hein, la Russie ayant nié en 2016 les conclusions d'une commission d'enquête de l'ONU sur les droits de l'homme en Érythrée. Bah ouais, donc voilà, hein, c'est sympa, entre dictatures, on s'aime bien. Donc cette commission d'enquête avait fait quand même état de crimes contre l'humanité commis dans le cadre d'une campagne systématique et à grande échelle contre la population civile depuis 1991 par le régime en place. Voilà, on était donc en 1991-2016, ça fait quand même 25 ans, donc c'était long quand même. Hein. Et bah, la Russie, elle a dit non, c'est pas vrai, j'ai rien vu moi. Attendez, mes observateurs, ça allait loin parce que Poutine a même dit à l'ONU, la Russie a envoyé des observateurs sur place qui ont constaté la belle vie que mènent les Érythréens.
C'est beau.
C'est beau, c'est oui. Presque bucolique. Donc la réaction érythréenne à ces conclusions a été de rejeter en bloc hein, tout ça, parce qu'elle a dit non, et d'accuser les États-Unis de contrefaire la vérité pour nuire au régime en place. C'est quand même pratique les États-Unis, si tu les mets à toutes les sauces, c'est bien. Bah, faut être très clair, il y a une dictature en Érythrée, c'est digne de la Corée du Nord, et faut arrêter de croire que tout est bidonné tout le temps. Parce que, voilà,
oui, en fait, on est toujours dans un binarisme, putain. Oui. Pardon, bordel. Et c'est vraiment... c'est toujours d'un simplisme, etc. Et c'est toujours le méchant américain. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que les États-Unis ne sont jamais responsables de
rien. Ou l'Europe,
rien,
hein, d'ailleurs.
En fait, on oublie quand même souvent aussi la géopolitique locale. Quoi.
Et puis les populations aussi qui parlent.
Ça, évidemment, mais c'est les intérêts, etc. Arrêtons de croire qu'il n'y a que des notions d'intérêt pour les pays européens ou américains. Il y en a évidemment,
les Russes,
mais il y en a
Chine,
aussi pour plein d'autres en fait. Quoi.
Alors, juste quand même pour votre information, la Chine détient 2 ports en Érythrée.
Bah oui,
c'est fameux sur ces routes de la soie. Mmh. Là. Donc c'est normal du coup que vous comprendrez vite que les conclusions du pouvoir érythréen ont été soutenues en 2016 par la Russie et la Chine qui ont bloqué avec leur veto toute résolution de l'ONU et notamment l'envoi d'observateurs indépendants sur place pour constater ce qui se passait. Voilà, ça veut dire qu'entre dictatures on se soutient.
Oui, mais c'est, sans faire après non plus dans du simplisme ou dans du parallèle, mais je veux dire, en fait, fait, le truc dont tu parlais avant sur l'Allemagne et la France qui peuvent s'entendre avec la Pologne,
ça,
etc. En fait, c'est, on remarque quand même toujours que c'est d'abord les intérêts des politicards et des nations, entre guillemets, avant...
Avant tout reste.
Avant tout autre intérêt des victimes, des populations, etc. Quoi.
Alors pourquoi moi je vous parle de l'Érythrée ce soir ? Alors, j'avais déjà parlé du Tigré, mais c'est un peu étonné. Mais en fait, c'est que si j'ai eu envie de vous en parler ce soir, et de sa dictature, hein, toujours en place, c'est parce que justement j'ai été étonné que l'annonce sur le foot, dont je vous parlais au début, ait été aussi peu relayée ou analysée. Derrière le côté amusant souligné par quelques fans de foot capables de faire des mèmes, vous savez, sur internet pour se moquer de cette équipe qui n'ira pas au mondial, peu ont été là pour dénoncer le pouvoir et ce qui est derrière, et surtout la raison, c'est-à-dire que la raison n'est pas cachée. Et à un moment donné, personne s'est dit, donc là on a une équipe de foot qu'on interdit de sortir du territoire parce qu'on a peur qu'ils se barrent. Vous voyez, c'est quand même...
Oui, mais tu sais, le sport, c'est cette grande messe apolitique.
Totalement.
Il n'y a jamais de politique dans le sport. Vraiment, Fab, il faudrait que tu t'y fasses. Le sport est une grande communion collective mondiale. Et bon, ça permet de taire plein de choses, mais tu vois, c'est vraiment c'est l'esprit du sport. Quoi.
Mais justement, tu le dis bien, taire, parce que c'est la force d'une dictature quand elle arrive à effacer ce qu'elle est. Parce que c'est ça qui moi, m'a interpellé. En attendant, aujourd'hui, pas loin de 3 800 000 habitants vivent dans un pays sans droit, sans avenir et sans illusion. Parce que c'est vraiment un régime, mais d'une folie absolue, quoi. Les révoltes sont matées par une armée violente et aux ordres, devenue le pilier du maintien du pouvoir en place. La jeunesse a bien tenté, dans le sillage des courants de, vous savez, aussi bien les printemps arabes que le soulèvement iranien, tout ça. La jeunesse, elle a tenté en Érythrée de s'organiser, mais selon ce qui a pu être sorti comme information, parce que quand même il y a des choses qui arrivent à sortir, comme pour la Corée du Nord ou d'autres pays, la répression a été intraitable et plus de 6000 jeunes auraient été enfermés et des manifestations a été réprimée par des tirs à balles réelles. Donc voilà, donc c'est quand même juste hallucinant, mais on en est là quand même. D'ailleurs, je veux saluer quand même ici Radio RNA, qui est basée à Paris, parce que je parlais justement de la radio, vous savez, la semaine dernière, et c'est marrant parce que j'ai eu beaucoup d'infos grâce à Radio RNA. Mais donc, elle est basée à Paris, mais elle émet dans le monde, et elle porte des informations contradictoires et anti-dictature. Et elle utilise pour ça les satellites, les ondes courtes, Internet, enfin tout ce qu'elle peut, tout ce qui passe, le DAB, la FM, enfin tout ce qui passe, elle est, voilà, avec des bateaux au large, enfin c'est vraiment bien foutu, voilà, clairement. Et elle essaye d'être entendue partout dans la corne de l'Afrique et notamment en Érythrée. Et aussi Radio Adal, qui était une radio qui avait été fondée par Saïd Aden et qui avait permis, alors je dis avait parce qu'elle n'aimait plus depuis un certain temps, de mettre en lumière notamment ce qui se passe dans le pays et notamment la répression qui a eu lieu en 2016-2017 des mouvements de protestation des jeunes érythréens. Voilà, c'est grâce à des gens qui font de la radio qu'on a pu avoir des infos. Et c'est vraiment... important. Voilà. C'était l'occasion de souligner à quoi pouvait aussi servir la radio. Donc aujourd'hui, le régime d'Isaias Afewerki tente de sortir de son isolement, parce qu'en fait, comme il n'y a quand même plus rien à bouffer, et à un moment donné, il se rend bien compte que ça ne va pas marcher. Je le dis un peu trivialement, mais c'est un peu le problème qu'il a aujourd'hui. Donc il essaye de se rapprocher de son voisin, mais surtout de la Russie et un peu de la Chine. Voilà. Le tout pour renforcer quand même sa dictature, parce qu'il se dit que, je pense, ça c'est mon analyse, que si le peuple a moins faim, il se révoltera peut-être un peu moins. Vous voyez, c'est un peu le truc qui est derrière. Donc la question que je me posais, parce que quand même, c'est combien de temps on va continuer à détourner le regard de ce qui se passe en Érythrée. Voilà, moi c'était une vraie question que je me pose, parce que je vous jure que cette info sur le foot qui a été prise un peu à la légère, et y compris dans certains journaux où j'ai pu voir des gens rire, c'est-à-dire Yohann Rioux par exemple, vous voyez, lui rit tout le temps, mais j'ai trouvé ça juste hallucinant que personne se dise, mais attendez, on est en train de dire, on enferme une équipe. Quel que soit le truc, c'est quand même hyper violent de se dire, on empêche des gens de sortir d'un pays parce qu'on a peur qu'ils fuient le pays. Et ben c'est aujourd'hui ce qui se passe, et je vous invite vraiment à vous renseigner. Il y a une forte diaspora érythréenne en France, donc voilà, elle est active, elle essaye de parler de ce qui se passe là-bas, donc c'est bien aussi de se renseigner, d'écouter, parce que très honnêtement, c'est juste hallucinant de se dire qu'on a une petite Corée du Nord au bord de la mer Rouge. Voilà.
Yep. On passe à la musique ?
Ouais.
Oh, غيرتك والله لا غيري والله لا غيري لخليتك ليا خليتك.
Sur la causerie au 102.2 sur RadioCanu.org. Et ce titre est totalement fou. Ça a été donc Acide Arabe avec Abaïtak. Et franchement, bah, ça met une pêche. Je ne sais pas vous, mais moi, le titre, il me rend dingue. Enfin, à chaque fois, je l'entends.
Il y a une petite ressemblance un peu, je trouve, avec celui qui a fait un titre de fou en hommage
à DJ Snake.
Ouais,
DJ Snake. Il y a un peu ça. Et juste, c'est issu de leur nouvel album qui s'appelle 3, donc d'Acide Arabe. Et je voulais juste signaler que dessus, il y a un très bel hommage à Rachid Taha. Et je vous invite à aller l'écouter, c'est très très beau. Rachid okay. Trip, ça s'appelle.
Et ben, très bien. Et ben, ça va être l'heure de se quitter. On est un peu en avance, mais c'est pas grave. On va pas combler pour combler. Donc, nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain, évidemment. Ça sera le 3 décembre et normalement. Enfin non, mais c'est quasi sûr.
Sûr. Hein.
Donc, on sera en compagnie d'invités qu'on a déjà eu la chance de recevoir. C'était pour leur pièce précédente de théâtre. Et donc, c'est des membres de la compagnie du Savon Noir qui viendront nous parler d'une conférence théâtralisée adaptée et inclusive qui s'appelle « Quand je parle sexualité, je mouille ». Oser parler de sexualité. Donc ce sera... nous, on les reçoit donc dimanche prochain, de 22h à 23h sur l'antenne de Radio Canu, évidemment, dans la causerie. Et je vous le dis quand même en avance parce que leur pièce, elle sera jouée le 6 décembre. Donc, ça sera 3 jours après l'émission. Donc, si, admettons, vous voulez aller la voir, cette pièce ou cette conférence théâtralisée, ce sera donc le 6 décembre. C'est un mercredi, si je ne me plante pas. Et à Lyon, ce sera donc à 19h à la salle Paul Garcin, dans le premier arrondissement. Mais d'ici à aller voir cette pièce, et je vous y croiserai peut-être, rendez-vous dimanche prochain, comme dit, 22h à 23h, avec des membres de la compagnie du Savon Noir. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai rien oublié.
Non, c'est bon.
Ok, très bien.
Je voulais juste signaler, j'avais parlé d'un livre qui est le 4e tome d'Hunger Games. Il y a l'adaptation cinématographique qui vient de sortir, donc je le dis. Pour ceux qui n'aiment pas lire et qui aiment aller au cinéma, même si le film est tout petit peu moins bien que le livre à mes yeux, mais voilà.
Ok.
Mais le film est bien.
Ok, très bien. Et bien donc, on va se quitter. On vous donne rendez-vous donc dimanche prochain. On va se quitter. On va se quitter, évidemment.
On va se quitter en musique, ouais.
Évidemment, en musique. J'avais pas vraiment le choix, parce que leur album est sorti, je crois, la semaine passée. Je vous parle donc d'Altarba et Senbei, dont l'album Rogue Monsters 2 est sorti. Et le titre, c'est Strange City. Là aussi, bientôt, ils seront en tournée autour de cet album, je crois, à partir de 2024, ou peut-être la première date en décembre à Paris. Mais guettez les agendas. parce qu'en concert, ça déboîte beaucoup. Donc je vous invite évidemment à rester. Oui, dis-moi.
Eh ben, tu disais que tu n'avais pas le choix, mais il te menace, Altarba, pour passer tous ces titres.
Non,
parce que sinon, tu nous le dis. Hein.
Non, j'avais pas le choix, c'est juste que j'avais pas forcément.
C'est juste que c'est super bon, quoi.
Voilà,
comme d'habitude.
Oui, j'aime beaucoup ce qu'ils font, même à deux. Strange City de Senbei et Altarba. Et nous, on vous donne rendez-vous donc dimanche prochain à 22h, 23h sur l'antenne de Radio Canu avec les invités de la compagnie de théâtre du Savon Noir. Et je crois que j'ai tout dit et je vous dis.
Non, t'as pas donné les blogs, tout ça.
Ah, mais oui.
Mais oui.
Oh là là, je suis tout chamboulé, moi, depuis qu'on inverse tout ça. Donc, évidemment, si vous avez aimé, si t'as kiffé la causerie, n'hésite pas, tu peux nous contacter par mail. T'envoies un mail à la causerie radiocanu@gmail.com.
Non, la causerie canu.
J'ai dit quoi?
Radio Canu. C'est la causerie
canu@gmail.com.
Ça fait 10 ans qu'on a la même adresse.
Ouais, mais je suis tout chamboulé. Et si vous voulez évidemment écouter les podcasts, ça se passe sur le blog de l'émission. C'est à blogs.radiocanu.org/la causerie. Sinon,
ou n'importe où sur internet.
Ouais, ce que j'allais dire. Dans vos petits moteurs de recherche, sur vos plateformes d'écoute, etc. etc. Vous tapez la causerie Radio Canu et vous devriez nous trouver. Et on invite vraiment, si vous voulez donner vos avis, etc., on vous invite vraiment à le faire par commentaire
sur le blog.
Histoire que ça laisse une trace aussi sur le long terme, plutôt que sur Facebook où finalement ça appartient à monsieur Mark Zuckerberg et on ne sait pas combien de temps on y sera. Donc voilà, là j'ai rien oublié.
Non.
Ah, et si tu veux des stickers, je le rappelle, mais si.
Envoie un mail.
Clara, elle était prête à appuyer sur play pour la musique. Maintenant qu'il fait, mais.
T'as dit qu'il faut pas combler pour combler.
Non, je comble pas pour combler. Hein. Non, allez, vas-y. Si tu veux des stickers de la causerie et même de Radio Canu, parce que je crois qu'il y en a des nouveaux qui, enfin, il y en a de nouveaux qui ont été édités. Bah, hésitez pas. Vous nous envoyez aussi un petit mail à nous si vous nous écoutez évidemment. Et puis on tâchera de vous envoyer ça chez vous. Comme ça, vous pourrez en coller tout ce que vous voudrez.
Mais surtout vos frigos. Non, parce qu'on n'a pas le droit de dire faut coller dans la rue, mais tu peux le faire, mais ne le fais pas, mais tu dis pas que tu en l'as dit.
Moi, je dis ce que vous voulez. Bon, après, les gens sont libres, ils sont libres. Voilà. Donc voilà, allez, on se quitte pour de bon. Rendez-vous dimanche prochain, ouais. 22h, 23h. On se quitte avec Altarba et Senbei. Bonne écoute, à plus.
Des bisous.
Ciao.
するはさらに